Tout le monde répète avec moi cette prière. Éternel des armées. Merci pour ta présence encore ce matin au milieu de nous. Je sens que tu m'as touché. Je le sens dans mon esprit et je le sens dans mon corps. Et j'ai la foi que ce que tu m'as promis est acquis. Non seulement la croix de Golgotha, mais est acquis aussi. Et va se manifester dans ma vie. Merci Seigneur pour mon miracle que je suis venu chercher ce matin. Alors je vois dans mon esprit ce miracle à ma portée. Et par la main de la foi, je saisis ce miracle et je te dis merci parce que tout est accompli. Merci Seigneur parce que tout est accompli dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors avant de te rasseoir, serre la main de quelqu'un et dis, tu es le bienvenu dans la présence du roi des rois. Serre la main d'une deuxième personne et dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Serre la main d'une troisième personne et regarde là droit dans les yeux en disant, je vois la foi dans tes yeux. Et je suis convaincu que tu vas vivre une semaine de miracles. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va prendre Romains chapitre 5. On va lire ce chapitre. Et je vais juste m'appuyer sur un verset. Lisons à partir du verset 1 pour comprendre tout le contexte. Nous lisons la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dis à ton frère, l'épreuve produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et de cette victoire, alléluia, va naître l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis à ton frère, l'Esprit de Dieu t'a été donné. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors, je t'aime de l'amour du Seigneur. Cet amour ne dépend pas de moi, mais ça dépend du Saint-Esprit. Ah, regarde quelqu'un en face. Dis-lui, tu es obligé de m'aimer. Tu n'as pas le choix. Ça ne dépend pas de toi. Il ne fallait pas accepter Jésus. Depuis le jour où j'ai accepté Jésus, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Tu es obligé de m'aimer parce qu'il répand dans ton cœur l'amour de Dieu pour moi. Acclame Jésus, alléluia. Mais tu as bien fait d'accepter Jésus. Alléluia. Comme ça, au moins, tu m'aimes. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force ou pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous n'étions encore que pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous n'étions encore que pécheurs, amen, ça c'est un verset qui me brûle au cœur. Waouh! Donc Christ m'a aimé avant la croix. Il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par le sang, enfants de Dieu, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Waouh! Si Dieu t'a aimé en tant que païen, à combien plus forte raison maintenant que tu es devenu enfant de Dieu? C'est ce que ça veut dire. Alléluia! Son amour se manifeste encore de façon plus grande pour toi. Parce qu'il ne t'appelle plus serviteur, il t'appelle ami. Ah, il t'introduit dans son intimité. Quel privilège! Ce privilège, les païens ne l'ont pas. Dieu les aime, mais ils n'ont pas ce privilège d'avoir accès dans l'intimité, la présence de Dieu. Alléluia! Il y a quelqu'un, Dieu m'aime. Même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Mais je sais que tu m'aimes et tu es obligé de m'aimer. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Ah, le Saint-Esprit est en toi. Même si le diable veut mettre dans ton cœur des pensées bizarres sur moi ou des sentiments négatifs sur moi, la haine commence à monter. Parce que je sais que tu es de nouveau, parce que je sais que le Saint-Esprit habite en toi, je m'inquiète même pas. J'ai confiance au Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Acclame le Seigneur, alléluia. Je prie seulement pour toi. J'active le Saint-Esprit en toi. Je dis, Saint-Esprit, agis, agis. Tu vois un peu son attitude vis-à-vis de moi a changé. Mais ce n'est pas grave. Le diable est tenté de la saillir des pensées bizarres. Mais ton œuvre consiste aussi à répandre l'amour de Dieu dans son cœur. Répands, Saint-Esprit. Ajoute. Plus je prie, plus ça augmente en toi. Quelqu'un m'a dit, arrête de prier pour moi. Oui. Un chrétien m'a dit, je sais que tu pries pour moi. Arrête de prier pour moi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit en lui l'a convaincu. Hey, il prie pour toi, il t'aime. Mais comme il y a la chair, la haine qui est là, je ne veux pas que tu pries pour moi. Je ne veux pas. Parce que tu sens que cette haine va partir. Ça vous est jamais arrivé? Tu as envie de régler les comptes à quelqu'un. Mais le Saint-Esprit te dit, il te donne les paroles. Tu dis, non, Saint-Esprit, pardon. Laisse-moi d'abord lui dire deux mots. Mais heureusement que dans le combat de la chair et l'esprit, l'esprit le remporte toujours. On acclame le Seigneur. Alléluia! Ce n'est pas ça mon message, hein? Mais on est en train de lire le passage. Donc, obligé, on s'arrête sur des points, flash. C'est la parole. Amen, amen. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé tant il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Waouh! Eh, ma Seigneur! Parce qu'aujourd'hui, la mort ne règne plus. Sur ma vie, la mort ne règne plus. Alléluia! La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. À l'époque, la mort pouvait prendre même les saints. Mais quand Jésus est mort à la croix, les tombeaux des saints qui étaient tenus captifs par la mort se sont ouverts. Et ces mêmes saints ont été libérés. Ils sont ressuscités parce que la mort ne pouvait tenir captifs les gens. Surtout les saints, que d'Adam jusqu'à Moïse. Parce que la loi était venue par Moïse. Mais après Moïse, vient Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, alléluia! Et quand Jésus est arrivé, il est venu mettre fin au règne de la mort. Maintenant, depuis la mort et la résurrection de Christ à la croix, le diable n'a plus aucun pouvoir de tuer un chrétien. Le diable n'a plus aucun pouvoir de tuer un saint. Wow, quelle bonne nouvelle, ça devait vous faire tressaillir. Alléluia. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant, c'est fini. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, même s'il n'avait pas péché, quelqu'un, il naît, il n'a pas péché. Mais parce qu'Adam a péché. Maintenant, le péché règne sur lui et il est hérité du péché. Il dit que ça, c'était avant. Alléluia. Et la mort a régné comme ça, d'Adam jusqu'à Moïse. Ton enfant naît. Le pauvre n'a rien fait. Il est innocent. Mais il naît déjà avec les gènes du péché. Et la mort règne sur sa vie parce que simplement, il a hérité du péché d'Adam. Mais si le premier Adam a échoué, le second Adam a triomphé. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia! Le verset 15 dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Waouh! Ça veut dire que de la même manière que la mort a régné par la loi de Moïse, depuis Adam, juste... Quand Moïse, que la mort a régné par le péché d'Adam, qui était héréditaire, il n'en est plus ainsi aujourd'hui du don de la grâce par Jésus-Christ. Alléluia! Si autrefois, quand tu naissais même, tu naissais dans le péché, tu héritais le péché, aujourd'hui, maintenant que tu es chrétien, cette affaire est terminée. Alléluia!
Oh,
quel privilège, quelle grâce! Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Waouh! Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur plusieurs, alléluia. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jusqu'à tes enfants, mon frère. Ta postérité. Alléluia, tes fils seront appelés disciples éternels. C'est une prophétie qui a été donnée depuis l'Ancien Testament. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dis que je suis rendu juste. Je suis juste. Je suis justifié. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia! Alléluia, merci Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Voyez-vous, ce passage de Romains chapitre 5 nous montre l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia! Et quand on lit ce passage, on réalise l'œuvre de la justification par la croix. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Mais je vais m'appesantir sur un verset, le verset 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La Bible déclare ici, dans ce passage, que par la mort de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans la version que j'ai, c'est le second certainement révisé. Dans une autre version, on dit par la foi en sa mort. Donc, il y a deux choses ici. Il y a la mort et la vie. Amen. Mon focus va rester sur la mort et la vie. Dites la mort et la vie. Et donc, on a lu tout à l'heure tout le passage de Romains chapitre 5 qui nous montre que la mort de Christ à la croix a vraiment garanti à nous qui sommes ses enfants aujourd'hui plusieurs richesses spirituelles, un héritage glorieux. Et dans ce passage, au verset 10, il nous dit que par la mort de Christ, nous avons eu accès à la réconciliation avec le Père. Donc, la mort de Christ nous a réconciliés avec le Père. Mais la vie, alléluia, nous donne accès au salut. Deux choses importantes. Que quelqu'un dise deux choses. La mort nous réconcilie avec le Père et la vie de Christ nous donne le salut, nous sauve. Donc, pour être réconcilié avec Dieu, tu as besoin de croire, d'avoir foi en la mort de Christ à la croix. La mort de Christ à la croix te réconcilie avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici? Amen, amen. Oh, merci Seigneur, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Il s'est mis à notre place. Normalement, c'est nous qui méritons la mort, la condamnation. Parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un avait péché, lorsque quelqu'un avait commis des crimes, il y avait la tradition à l'époque qui consistait à crucifier, à clouer sur un bois les pécheurs, les gens qui avaient commis des crimes, des brigands. Voilà pourquoi Jésus va être crucifié sur un bois, à la croix. Parce qu'il avait été compté parmi les brigands, alors qu'il n'était pas brigand. Voilà pourquoi il a été crucifié au milieu de deux brigands. Quelqu'un me comprend ici? C'était la tradition à l'époque. C'est pour montrer qu'en fait, nous méritions, nous, en tant que brigands, la condamnation. Parce que tous, Nous étions pécheurs. Chacun suivait sa propre voie. Christ a pris notre place. Il est venu mourir à la croix afin que la mort, la condamnation qui tombait sur nous et la mort que nous méritions retombe sur lui. C'est pourquoi il déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia! Donc, sans sa mort, que Christ nous prouve son amour. Ça veut dire qu'il nous aimait déjà avant. Donc, sa mort n'est que la preuve de cet amour. Quelqu'un dit amen ce matin. Donc, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, tu dois croire à la mort de Christ. Tu dois comprendre le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Et quand tu crois à la mort de Christ, quand tu as foi en la mort de Christ, en fait, l'héritage attaché à la mort de Christ devient ton partage. Par exemple, quand Christ est mort, la Bible dit qu'il n'y a point de fusion de sang sans sacrifice. Donc le sacrifice de Christ a fait couler le sang. Et ce sang-là a purifié tes péchés. Et la puissance de ce sang t'a été acquise à la croix en ta faveur. La Bible déclare que le sang de Christ parle plus fort que celui d'Abel. Quand Caïn a tué Abel, il a versé le sang de son frère. La Bible déclare que le sang d'Abel a crié. Et bien sûr, le sang d'Abel n'a pas crié miséricorde. Il n'a pas crié amour. À l'époque, ce n'était pas un homme qui mourait à la place de quelqu'un d'autre. À l'époque, il fallait verser le sang des taureaux et des boucs pour espérer avoir au moins, ne serait-ce que la couverture des péchés. Pas l'effacement, mais la couverture des péchés. Le sang des taureaux et des boucs couvrait simplement, mais n'effacez pas, n'ôtez pas le péché. Donc quand Caïn va tuer Abel, la Bible déclare que le sang d'Abel va crier vengeance. Donc le sang parle, le sang témoigne, le sang a une parole dans le monde spirituel. Maintenant, quand Christ meurt, son sang qui a coulé va parler en ta faveur et va crier plus fort et mieux que celui d'Abel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas crier vengeance. Il va crier quoi? Miséricorde. Pardon. Il va crier quoi? Amour. Il va crier quoi? Restauration. Il va crier quoi? Guérison. Délivrance. Réconciliation. Donc la puissance du sang de Jésus t'est acquise à la croix de Golgotha par la mort de Christ. Et la puissance de la croix de Jésus, la puissance du sang de Jésus à la croix va agir en ta faveur parce que tu as mis ta foi dans la mort de Jésus. Donc la mort de Jésus à la croix te donne cette grâce de bénéficier de la puissance du sang de Jésus. Et la Bible déclare que la vie est dans le sang. Alléluia. Mais je vais toucher ce point après. Amen, amen. Et la Bible déclare que ils l'ont vaincu, c'est-à-dire vous, vous l'avez vaincu, le diable, ces démons, les sorciers, vous les avez tous vaincus, le royaume des ténèbres, à cause du sang de l'agneau. Donc ce sang te donne et te garantit la victoire sur tes ennemis, sur les sorciers, sur la maladie, sur le diable, sur les démons. Le sang de Jésus te confère la victoire. Et lorsque tu as foi en la mort de Christ, quand tu crois en la mort de Christ, ça veut dire que Dieu te réconcilie avec le Père. C'est ça, se réconcilier avec le Père. Donc, lorsque tu es réconcilié avec le Père, il y a une deuxième étape. Il dit maintenant, par la vie, nous avons été sauvés. Par sa vie. On peut lire ensemble le verset. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Donc, si la mort de Christ nous réconcilier avec le Père, alléluia, nous sommes sauvés par sa vie. Ce n'est pas la mort qui sauve, c'est la vie qui sauve. La mort te réconcilie avec le Père, mais la vie te sauve. Et le mot sauver ici signifie salut. Je vous ai enseigné sur le pacte du salut. Le salut c'est quoi? Le salut c'est la guérison, c'est la santé divine, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la prospérité, c'est la faveur divine. Le salut, c'est le succès, la réussite. En fait, le salut, c'est tout ce qui vous amène à une vie abondante en Christ Jésus. Et quel est mon point ce matin? Mon point est celui-ci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont nés de nouveau. Ils sont devenus chrétiens, donc enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont que la révélation de la mort de Christ à la croix pour eux. Et parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Quand on leur a prêché l'évangile, on leur a prêché l'évangile qui dit que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés. Exactement ce qu'on a lu tout à l'heure. On leur a expliqué ces choses comme je l'expliquais au départ. Et tout le monde est conscient aujourd'hui que vraiment c'est nous qui méritions la mort, la condamnation. Et donc c'est par maintenant Jésus-Christ que nous avons été sauvés de la mort. Et nous sommes conscients de la mort de Christ dans notre vie. Et nous avons foi en cette mort. C'est pourquoi nous sommes conscients que nos péchés sont pardonnés. C'est pour ça que nous sommes conscients que notre nom est inscrit dans le livre de vie, que nous sommes reconnus avec le Père. Pourquoi? Parce que nous avons cru à la mort de Jésus, à la croix. C'est pourquoi nous prenons le baptême. Nous mourons avec Christ. Alléluia. Pour ressusciter avec Christ. Mais tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, comme Sauveur et Seigneur, et qui ont compris la mort de Christ et l'amour de Dieu pour eux, malheureusement aujourd'hui, vivent encore sous le poids de plusieurs jougs, que ce soit l'oppression démoniaque, que ce soit l'échec, que ce soit la maladie, etc. Mais pourquoi? Alors que nous sommes réconciliés avec le Père. Parce qu'il manque la deuxième dimension. Nous n'avons pas accès au salut par la mort, nous avons accès au salut par la vie. Or, c'est quoi la vie? Et c'est là que j'aimerais faire le lien avec tout ce que nous sommes en train d'apprendre depuis avant la conférence Intention des Aigles et jusqu'à maintenant. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et Jean-Baptiste, parlant de Jésus, va dire, je suis juste venu ouvrir le chemin, à planer les sentiers. Mais ce n'est pas moi, il y a un qui vient après moi. Alléluia. Il parlait de Jésus et il dit, quand lui viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Et quand Jésus vient, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Donc Jésus, quand il arrive, ce Jésus qui a été annoncé par Jean-Baptiste, il se présente comme étant la vie elle-même. Alléluia. Et quand Jésus parcourt la terre, il va de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et tout le monde attendait la manifestation de cette vie, comment ça va se passer. Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Il est avantageux que je m'en aille. Ah, mais ce n'est pas toi qu'on attendait. Oui, bien sûr que c'est moi qu'on attendait. Et si vous avez bien compris le message de Jean-Baptiste, je suis venu pour faire quelque chose. Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi, mais lui, quand il viendra, il est plus grand que moi. Quand il viendra, il vient avec son vent. Quand il viendra, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc, c'est de ça qu'il s'agissait, en fait. C'est pourquoi quand Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, et la femme samaritaine dit, mais je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Je dis, parce que l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et quand Jésus demande de l'eau à boire, hein, il dit à la femme, il dit, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Et cette eau deviendra en toi un fleuve d'eau vive. Alléluia. Un fleuve de vie. Alléluia. Donc, quand Jésus parle de la vie, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il veut dire « Je suis le chemin qui conduit à la vie ». Mais ce n'est pas seulement moi. En fait, la véritable vie, elle arrive. Et quand il vient, il présente cette vie à la femme samaritaine. Il dit « Voilà, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alléluia. Et la Bible dit qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit qu'il leur avait promis. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, par le sacrifice de Christ à la croix, nous avons accès à la réconciliation avec le Père. Nous sommes réconciliés, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers, gloire à Dieu. Et nous pouvons le chanter, nous sommes vraiment nés de nouveau, nous ne sommes plus pécheurs, nos péchés sont effacés par le sang de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Gloire à Dieu, mais ces mêmes justifiés sont encore sous les jougs de maladie, pauvreté, etc. Pourquoi? Parce qu'après la mort doit venir la vie. Et si nous avons accès à la réconciliation par la mort, la Bible déclare, nous avons accès au salut. Nous sommes sauvés par la vie. Nous sommes sauvés par le Saint-Esprit. Là, c'est compliqué. Mais le Saint-Esprit est la vie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai foi en la mort de Christ, je suis reconcilié avec le Père. Ce n'est pas grave, j'irai au ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, j'irai au ciel. Mais si je veux vivre tout ce que Christ a accompli sur la croix, ici sur terre, j'ai besoin d'avoir foi en la vie. J'ai besoin d'avoir foi au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Acquis à la croix de Golgotha pour nous. C'est lui qui nous garantit cet héritage. La mort de Christ nous garantit la réconciliation. Et le Saint-Esprit nous garantit l'héritage, la vie, le salut. C'est-à-dire que tout ce que Christ a accompli se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et après la série sur l'onction, sur tout ce qu'on a appris, j'aimerais aujourd'hui simplement introduire une nouvelle série sur la personne du Saint-Esprit. comme gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Venez, aujourd'hui, Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reçoit la louange. Alléluia. Dieu le Père est dans le ciel. Et des trois personnes de la Trinité, Dieu Elohim, celui qui est avec nous sur terre, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père a achevé son œuvre. Il a travaillé pendant 6 jours. Le septième, il s'est reposé. Il reçoit la gloire. Bien sûr, il n'a pas travaillé seul. C'est Elohim qui a travaillé ensemble. Jésus est venu sur la terre. Il a accompli son œuvre. On l'a lu dans Romains chapitre 5 tout à l'heure. C'est terminé. Il s'est écrit, tout est accompli. On l'a chanté tout à l'heure. Il est monté au ciel. Il reçoit la louange et la gloire. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est descendu sur terre. Et c'est lui qui est avec nous maintenant au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il a dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Pourquoi est avantageux? Parce que si je ne m'en vais pas, tout ce que j'ai accompli à la croix de Golgotha ne vous sera pas acquis, ne vous sera pas manifesté. Donc c'est le Saint-Esprit qui transporte l'héritage de la croix dans la vie des chrétiens. Et c'est le Saint-Esprit qui rend manifeste cet héritage dans nos vies. Donc si nous n'avons pas foi au Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, eh bien, nous serons réconciliés avec le Père, nos péchés sont pardonnés, d'accord? Mais nous n'allons pas avoir accès au salut. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour cela que le message le plus important actuellement, comme je le ressens à l'église, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons vraiment aller en détail sur l'œuvre du Saint-Esprit. On a beaucoup été enseigné sur l'œuvre de Dieu. On a été beaucoup enseigné sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et là encore, lui, on a lu dans Romains chapitre 5, gloire à Dieu. Maintenant, il est temps que nous puissions être enseignés sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et très souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de certaines facettes du Saint-Esprit. Par exemple, on est resté longtemps sur l'onction du Saint-Esprit, le revêtement, et c'est bien tout ça. Mais il est maintenant temps que nous puissions nous focaliser sur la personne du Saint-Esprit. Parce que si par la mort de Jésus à la croix, nous avons été réconciliés avec le Père, nous ne pouvons avoir accès au salut, nous pourrons être sauvés que par le Saint-Esprit. Quand je dis être sauvé, ce n'est pas le salut dans le sens où mon nom est inscrit dans l'œuvre de vie, mes péchés sont pardonnés. Vous me comprenez bien, c'est ce qui est écrit. Mais on parle du salut, avoir accès, la manifestation de tout ce que Christ a accompli à la croix dans notre quotidien, tous les jours, c'est-à-dire dans notre corps. Par exemple, si nous lisons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13, la Bible déclare que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Okay? Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Est-ce que vous voyez ça? La Bible déclare que notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour notre corps. Waouh! Et Jésus l'a si bien compris. Qu'est-ce que Jésus dit? Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et un autre passage, une autre version qui dit, pour faire au Dieu ta volonté. Et nous comprenons mieux ce que l'apôtre Paul dit quand il dit que le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour faire la volonté du Seigneur. Mais pourtant, ce corps qui a été créé pour faire la volonté du Seigneur, qui a été formé pour faire la volonté du Seigneur, c'est le même corps qui est aujourd'hui attaqué par les démons, attaqué par la maladie, attaqué par l'oppression, par les épreuves, etc. Le même corps qui est en train de souffrir. Mais pourtant, en même temps, la Bible déclare que nous sommes réconciliés avec le Père, notre esprit est sauvé, notre esprit est justifié, notre esprit est sanctifié, notre esprit a été recréé, mais le corps reste souffrant, le corps reste malade. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous avons eu accès à la réconciliation avec le Père, parce que notre esprit était mort, nous sommes pécheurs, et nous sommes réconciliés avec Dieu par le moyen de la foi, du sang de Christ, la justification. Mais notre corps n'a pas encore accès au salut. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas en contact avec la vie. Si la mort réconcilie, c'est la vie qui sauve. Et c'est quoi la vie? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que, puisque la même puissance, écoutez-moi bien, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, la même puissance rendra aussi la vie à nos corps mortels, à nos corps mourants, à nos corps souffrants, à nos corps malades. Quelqu'un me comprend ici? Ce verset traduit bien ce que je viens de dire parce qu'il y a les deux dimensions qui sont réunies. En fait, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ça révèle effectivement que nous avons été réconciliés avec le Père, que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? que nous sommes justifiés, lavés par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés, mais notre corps est encore souffrant. Maintenant, il faut que nous puissions avoir accès à la vie pour que maintenant, cette vie puisse également toucher notre corps. C'est seulement ainsi que notre corps sera sauvé. Donc quand on parle d'être sauvé, c'est quand je dis que la mort ne sauve pas, la mort nous reconcilie avec le Père, je ne parle pas de l'esprit, je parle du corps. Quelqu'un me comprend ici? Oui, parce que l'esprit est déjà justifié, il est déjà sauvé, il n'y a pas de problème. Il reconcilie avec le Père, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais ton corps n'aura pas accès au salut par la mort, mais par la vie. Donc il faut maintenant que le Saint-Esprit opère son œuvre dans ton corps. Et l'une des choses que je dis souvent à Dieu, je dis, tu m'as créé, j'ai fait la même prière que Christ, tu m'as créé, oh Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Si tu veux que je continue à te servir sur la terre, tu as dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres d'éternel. Je veux, Seigneur, que si réellement tu veux que je te serve encore longtemps sur la terre, que tu guérisses mon corps. Mais pourtant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais il se passe quelque chose. La deuxième dimension n'est pas encore manifeste totalement. Et cela sera manifeste que par le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et mon objectif, c'est qu'à l'issue de cette série, vous deveniez des passionnés du Saint-Esprit, que vous deveniez des amis du Saint-Esprit, que vous soyez réconciliés aussi avec le Saint-Esprit. Parce que vous êtes réconciliés avec Dieu, le Père, d'accord? Mais il faut vous réconcilier avec le Saint-Esprit. L'Église de Christ a besoin de se réconcilier avec le Saint-Esprit. Et pour terminer, qu'est-ce que Jésus dit? Le verset de la conférence des aigles. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Le mot oint ici signifie Christ. Christ signifie celui qui est oint. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a fait de Jésus le Christ. Donc avant l'arrivée du Saint-Esprit, Jésus n'était pas encore Christ. Il était fils de l'homme, voilà. On le présentait ainsi, fils de l'homme, comme lui-même parfois le disait, le fils de l'homme. D'autres l'appelaient le fils du charpentier, mais il n'était pas encore Christ. Quand il pose la question à ses disciples, qu'ils disent des gens de moi, il y en a qui disent, tu es celui ceci, qui fait cela, etc. Ils disent, mais vous pensez quoi de moi? Et puis Dieu le Père va répondre à travers Pierre. Il va dire, tu es le Christ, virgule, le fils du Dieu vivant. Quelqu'un me comprend ici? Donc beaucoup de personnes sont encore enfants de Dieu aujourd'hui, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais tant que le Saint-Esprit n'a pas encore revêtu ton corps, tu es enfant de Dieu, tu es réconcilié avec le Père, tu es fils de l'homme, mais tu n'es pas encore le oint, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi, cette deuxième dimension. Et je l'ai enseigné ici, elle est très importante et on l'a encore vu durant toute la conférence des aigles, ce revêtement. Donc aujourd'hui, je crois qu'après la conférence des aigles, nous sommes tous des oints, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous des Christ. Alléluia! Parce que tu n'es pas Christ dans le sens où tu remplaces Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix. De toute façon, la Bible est claire que personne ne peut plus faire ce que Christ a fait sur la croix, il a tout accompli, n'est-ce pas? Mais tu as été déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu ne comprends pas cela, en fait, la Bible déclare que tu mourras comme les hommes. Tu mourras de maladie comme les hommes. Quelqu'un me comprend ici? Et on va comprendre c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Outre le fait de nous oindre, comme on l'a vu durant la conférence des aigles, pour que vous puissiez connaître qui est le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez savoir que le Saint-Esprit, vous pouvez également communier avec lui. Le Saint-Esprit, vous pouvez collaborer avec lui. Vous pouvez lui parler et il peut vous parler. Le Saint-Esprit, c'est votre ami et il doit être votre ami. Le Saint-Esprit, c'est votre confident. Il doit être votre confident. Le Saint-Esprit, c'est celui qui glorifie Christ en vous. Il glorifie le Père en vous. Le Saint-Esprit peut également être célébré. Il peut être honoré. Le Saint-Esprit peut également être adoré. Oui, et je vais vous expliquer toutes ces choses. Et c'est parce qu'on n'a pas foi au Saint-Esprit qu'on n'a pas accès au salut. Mais pourtant, le salut est rendu disponible spirituellement parce qu'on a été réconcilié avec le Père. Mais parce que celui qui est le gage de l'héritage de ce salut est méconnu. Et nous continuons à lever les yeux au ciel. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Ça, c'est David. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais aujourd'hui, un chrétien ne peut plus dire, je lève les yeux vers les montagnes. Oui, dans l'espérance, d'accord. Maintenant, tes yeux doivent être tournés, fixés sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Focalisé. Tes pensées doivent être orientées. Tu dois maintenant communier avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit doit devenir ton partage. Tu dois être ami du Saint-Esprit. Tu dois être intime du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Dieu n'est pas jaloux du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est pas jaloux du Saint-Esprit. Au contraire, tous veulent que l'Église connaisse qui est le Saint-Esprit, parce que s'ils connaissent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va glorifier le Père en eux, il va glorifier le Fils en eux, il va leur raconter la révélation du Père et du Fils. Et la religion nous a endommagé les mentalités face à la conception qu'on a de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Mais il est Dieu. On ne peut pas l'adorer. Pourquoi ? Il est Dieu. Il n'y aura jamais de conflit entre le Père et le Saint-Esprit parce qu'on adorait le Saint-Esprit. C'est une hérésie. Et le diable a infiltré cette fausse doctrine à l'Église pour que l'Église ne connaisse pas le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si l'Église connaît le Saint-Esprit, c'est la puissance qui détruit le royaume des ténèbres. Parce que le royaume de Dieu s'installe sur la terre par le Saint-Esprit. Et quand le royaume de Dieu s'installe, le royaume des ténèbres est détruit. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui en France, comme dans plusieurs pays, n'ont pas encore expérimenté le réveil, la puissance de Dieu. Il y en a même qui disent, vous savez, on ne peut pas avoir toute la plénitude de l'esprit. J'ai dit, ah, mais qui a dit ça? Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir toute la plénitude de l'esprit, ce n'est pas possible. Mais moi, je vois dans ma Bible, et on va terminer avec ça, j'aimerais que nous puissions lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Jean chapitre 3. Alléluia, merci Seigneur. On va lire à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça on le sait, on l'a compris, j'espère. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeura avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont à lui. » Il parle de Jésus. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Alléluia, merci Seigneur. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, il n'y a pas de jalousie non plus entre Jésus et Jean-Baptiste. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut, ah, ça c'est très important. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Est-ce que tu viens d'en haut? Ah, la Bible dit que celui qui est né de nouveau, il est né d'en haut. Donc tu es au-dessus de toute l'espèce humaine. Pas dans le sens d'orgueil, non. Tu n'as pas envie à un président. Tu n'as pas envie à un ministre. Tu n'as pas envie à un directeur. Parce que ce qui est céleste est supérieur à ce qui est terrestre. Quelqu'un me comprend ici? Ah, tu n'as pas de complexe à avoir. C'est dans ce sens-là. Amen, amen. Tu dois être fier d'être conscient de ton identité en Christ, de qui tu es. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu. Il y en a qui vont me dire, mais il parle de Jésus ici. Oui, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, venu du Père, l'a fait connaître. D'accord. À l'époque, Jésus était le Fils unique. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, est née une race de fils. Donc Jésus, au 21e siècle, n'est plus le Fils unique, c'est terminé. Il est le premier-né. Ah! Parce que tu es fils et fille aussi. Le Saint-Esprit est venu engendrer une race de fils et de filles, une race de Christ. C'est ça la nouvelle création. Alléluia. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Écoutez maintenant ceci, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Si quelqu'un ce matin a été envoyé de Dieu, lève la main. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas donné l'esprit avec mes yeux. Quelqu'un me comprend ici? C'est lui qui a été envoyé de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mes yeux. Mais Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le problème, c'est qu'en fait, et ça, c'est, ça va être vraiment l'un des objectifs que j'aimerais atteindre dans cette série. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ces choses. Ils croient que Jésus a accompli les miracles qu'il a accompli sur la terre parce qu'il était spécial et que donc, il n'y a qu'avec lui que Dieu pouvait faire ça. Et il y en a qui vont vous dire, de toutes les façons, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais toi aussi, en toi habite corporellement, c'est-à-dire corporellement, c'est ton corps. C'est-à-dire dans ton corps habite la plénitude de la divinité. Et la plénitude de la divinité, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, mandare broché, katara, bababa. Réseau d'intercession, j'ai besoin de vos prières. Je sens que cette série va être... Quand on était petit, pour qualifier quelque chose qui est dur, on disait un ninja. Je sens que cette série va être un ninja. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je sens déjà la confrontation avec les puissances des ténèbres, je sens la confrontation avec les puissances des raisonnements, des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ, de la religiosité, des magmas, des pensées à gauche et à droite. Je sens ça dans mon esprit, mais je sais une chose. Le but que Dieu va atteindre dans cette série, il atteindra dans vos vies et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, et vous comprendrez que Dieu ne vous a pas donné l'esprit avec mesure, mais le Seigneur Dieu vous a donné l'esprit sans mesure et que la plénitude du Saint-Esprit habite corporellement en vous. La plénitude de la divinité habite en vous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été promis, qui vous a été donné. Et mais vous n'êtes pas conscient, voilà pourquoi vous marchez encore dans la pauvreté, dans la disette, dans la maladie, dans l'oppression. Mais la grâce de Dieu fait ça. Durant cette série, Dieu va vous ouvrir les yeux. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Ah, votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes que quand il s'est acclamé, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai déjà envie de prêcher la série, mais on va arrêter là. Dis à ton frère, ne manque pas dimanche prochain. Ce n'était que l'introduction. Alléluia. Donc, je vous amène petit à petit, pas à pas, pour vous donner juste l'introduction, la définition. Et la semaine prochaine, on va commencer à décortiquer la plénitude du Saint-Esprit. Dynamis. C'est ce que ça veut dire, dynamis. Vous recevez une puissance. Dynamis. Dynamis veut dire dynamique. Dynamite. Amen, amen. Il y en a qui posent les bombes partout. Et la véritable bombe est là-dedans. Oh, quand elle explose, même Al-Qaïda ne peut rien faire. On acclame le Seigneur. Alléluia. Hey, quand la bombe qui est là-dedans explose, tous les avions des terroristes, des démons qui ont miné, explosent. Alléluia. À l'époque, quand on était petit, on faisait du vélo. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait des vélos avec un appareil qu'on appelait le dynamo. Donc, quand tu pédalais, plus effectivement l'énergie se créait. Et donc, cette énergie créée par le dynamo alimentait le circuit et la lampe du vélo s'allumait. Le phare s'allumait. Donc, en fait, finalement, l'énergie était créée par la personne qui pédale. Alors, quand tu pédales, il y avait un système qui faisait que, en fait, électriquement, ce qui sont dans le domaine peuvent l'expliquer. Donc, tu crées l'énergie, en fait. Dynamis, le Saint-Esprit. Dynamo. Quelqu'un me comprend ici? Est en toi. Plus tu pédales. Ah! Je suis obligé d'arrêter. Alléluia! Il faut que j'arrête parce que c'est l'heure. Amen, amen. Plus tu pédales, plus l'énergie se crée, se manifeste. Les lampes s'allument. Ta vie est éclairée. L'énergie est générée. Et la vie circule dans ton corps. La vie jaillit en abondance. Quelqu'un ici acclame Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et la Bible nous précise comment est-ce qu'ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force en marchant, en pédalant. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu es dans l'ombre de la mort, l'ombre de l'épreuve, ne t'arrête pas, marche. Marche, pédale, pédales. Parce que plus tu marches, plus tu es en train de créer, de générer l'énergie. Le dynamo se met en marche et la lumière jaillit. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia. Oh, mandare brosika baba baba. Le Saint-Esprit, lâche-moi. Parce que là, tu m'as dit aujourd'hui que c'était juste vraiment une introduction, étape par étape. Ne commence pas à m'ouvrir l'esprit comme ça, parce que sinon je vais te garder là jusqu'à 15h, 16h. Dis à ton frère. Non. Bon, c'est bien, tu dis allons, mais il y en a qui ont laissé leur michou, hein. Qui ont laissé leur poulet rôti. Donc, hein, bon. Mais je sais qu'il y en a qui sont prêts à rester là jusqu'à 20h. Bon, on va d'abord digérer ça. Hein. Dis à ton frère, on va d'abord digérer ça. Alléluia. Rendez-vous dimanche prochain. On acclame le Seigneur. Alléluia. Lève-nous, on va prier. Oh, thank you, Lord. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour son esprit. Dis que je veux te connaître, Saint-Esprit. Je veux mieux te connaître. Je ne te connais pas assez. Je connais certainement beaucoup de choses sur Dieu le Père. Je connais beaucoup de choses sur Dieu le Fils, qui nous a réconciliés par sa mort avec le Père. Mais je connais très peu de choses sur toi, Saint-Esprit, qui nous donne accès à la vie, cette vie qui nous sauve, qui nous garantit le salut. Saint-Esprit, tu es le gage de notre héritage. Et je prie que durant toute cette série, tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions avoir la révélation de qui tu es, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, ta prière là, vraiment. Ne donne pas l'impression que quelqu'un veut connaître le Saint-Esprit. Hein? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Mandare broshi kama. Thank you, Lord. Mandare brosa katare mama 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 mama. Alléluia. Oui, vas-y, exprime ton désir, ton désir. L'Église rentre dans une nouvelle dimension. Après la série d'enseignements sur l'onction, tu veux nous révéler réellement l'auteur de cette onction. Tu veux nous révéler l'auteur des dons spirituels. Tu veux nous révéler le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit. Et nous voulons le connaître. Saint-Esprit, nous voulons te connaître. Nous voulons désormais communiquer avec toi. Communion avec toi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Est-ce que l'Église Cive Bordeaux, au-delà de votre excellence dans l'organisation, au-delà de vos performances, au-delà de vos capacités intellectuelles, humaines, peut-être financière pour certains, au-delà de toutes ces choses que vous avez, est-ce que l'Église Cive Bordeaux peut, à partir de ce jour, dire bienvenue Saint-Esprit? Bienvenue Saint-Esprit. J'ai bataillé longtemps par mes propres forces, mais ce n'est ni par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses dans lequel je suis bloqué aujourd'hui. Je n'arrive pas à avancer. Mais je vais te connaître, Saint-Esprit. Parce qu'avec toi, les choses seront beaucoup plus faciles et rapides. Ah, Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ma force, ni pas mon intelligence, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Je vais te connaître. Alors, autrefois, je te connaissais avec l'intelligence, les connaissances apprises, théologiques, académiques, bibliques. Mais aujourd'hui, Seigneur, Saint-Esprit, je veux te connaître avec mon esprit. La révélation de l'esprit. Ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur. Illumine-les. Je veux connaître qui tu es, Saint-Esprit. Révèle-toi à moi. Afin que tout ce que Christ a acquis à la croix de Golgotha, par sa mort qui m'a réconcilié avec le Père, devienne manifeste. Parce que c'est ça, notre héritage. Et c'est toi qui es le gage de cet héritage. Pendant longtemps, je te connaissais comme ça. Je parlais de toi comme ça. Il n'y avait pas vraiment une connaissance intime, une révélation profonde. Mais durant cette série, accorde-moi d'avoir accès à la révélation profonde de qui tu es. Tu es Dieu sur terre. Tu es le Dieu de l'Église. de tuer le collaborateur de chaque ministre, de chaque ministère, de chaque enfant de Dieu, de chaque oint, de chaque Christ sur la terre. C'est toi qui fais de moi un Christ. C'est toi qui m'accordes la nature de Christ. C'est toi qui m'accordes la nature de Christ. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux pas avoir la nature de Christ en moi. Ça passe mieux comme ça pour certains. Seigneur Saint-Esprit, je veux te connaître. Alors, bienvenue.
Je te lie dans le lieu saint. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Redonne à mon âme. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu.